Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Mais oui, jour de flamme, retour de flamme, de retour dans les grandes gueules du sport. Il est 10h08, votre rendez-vous, vous le savez, le samedi, le dimanche de 9h30 à midi, avec ce matin Marc Madiot, Pascal Duprat, Simon Dutin, Renaud Longuèvre. Merci infiniment de votre fidélité dans quelques instants. Vous l'avez entendu, c'est donc l'événement ce matin sur RMC. Nous serons en direct d'Athènes pour le grand départ de la flamme vers Marseille. Le Belém qui vient tout juste de quitter le port du Pirée. L'occasion pour nous de parler des Jeux Olympiques. Le succès sportif des Bleus est-il garanti? 10h30, les arbitres sont-ils victimes ou coupables? C'était l'un des dossiers de la semaine, on s'en empare. La crise de l'arbitrage français. Et puis 11h, Marcel Hirscher, la légende du ski autrichien, a donc annoncé son grand retour après 5 ans d'absence cette semaine, mais avec une autre nationalité. La nationalité néerlandaise. L'une des raisons, une histoire d'équipementier. Son comeback est-il dérangeant? Vous n'êtes pas d'accord? Nous ouvrons le débat à 11h.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.
Allez, nous prenons de nouveau la route d'Athènes, le port du Pirée pour l'événement ce matin, la flamme qui vient tout juste de partir. Julien Richard, l'un de nos envoyés spéciaux. Julien, tu es avec, j'ai envie de dire, des supporters français, des suiveurs qui vibrent évidemment avec cette flamme des Jeux Olympiques.
C'est un peu ça, effectivement, j'y sais, parce qu'ils ont un petit drapeau français accroché au sac à dos. Il y a des t-shirts France et je regarde juste au large. Hein, on est sur le port du Pirée, mais on voit plus les trois mâts du Belém. Il a pris le large, la route vers Marseille, donc 2 jours de traversée. Mais Alain était là avec tout un groupe venu de Normandie pour assister à cet événement. C'est toujours un moment symboliquement fort. Et puis il y a beaucoup d'émotions quand même dans un départ de ce type de voyage avec la flamme à bord.
Oui, c'est beaucoup d'émotions, c'était le bon terme que tu as donné en parlant d'émotions, d'autant plus qu'on est avec un groupe de 6 jeunes. C'est un projet qui a été monté avec le cercle Pierre de Coubertin, donc on a les racines complètes de l'olympisme ici en Grèce et on est vraiment content d'être là. En plus, on a un groupe qui est super soudé, enfin des jeunes dynamiques, comme on aime les voir.
Notamment Léo, qui fait beaucoup de photos, je crois que c'est un concours photo encore. Juste, au-delà de ça, raconte-moi l'émotion de voir ça. Tu étais hier au stade Panathinaïkos.
Un petit souci de connexion avec Julien Richard que l'on retrouvera dans quelques instants. Juste pour vous dire, événement très important sur RMC, c'est le mercredi 8 mai prochain avec l'arrivée de la flamme à Marseille. Toute l'antenne d'RMC sera en direct de Marseille pour l'arrivée de cette flamme. Moment ô combien symbolique, les grandes gueules. Le Super Moscato Show, également une émission spéciale à retrouver sur la radio digitale de 18h à 20h. Notez bien ce rendez-vous, c'est donc le 8 mai prochain, le mercredi, avec l'arrivée de cette flamme. On retrouvera Julien Richard un petit peu plus tard dans cette émission, mais tout de suite, on va forcément batailler sur les JO.
RMC.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame?
Alors, J-89 avant les Jeux Olympiques de Paris. Depuis plusieurs semaines, il est beaucoup question de cérémonie d'ouverture, de sécurité. Parlons de sport. Aujourd'hui, la délégation française a évidemment de grandes ambitions. L'objectif affiché est toujours le top 5 au classement des médailles. Les statistiques le prouvent. Le home advantage va jouer son rôle à fond. Le succès sportif de l'équipe de France est-il garanti? Dans le coin gauche, la team oui, il est garanti. Renaud Longuèvre dans le coin droit. La team non, il n'est pas garanti. Et il y a du monde. Simon Dutin, Marc Madiot, Pascal Duprat. Il y a quelques jours, avant de débattre sur RMC et BFM TV, le président de la République, le chef de l'État, Emmanuel Macron, était l'invité d'Apolline de Malherbe et il rappelait les objectifs sportifs pour Paris 2024. Il était en face d'ailleurs de deux GG, hein, Marion Bartoli et David Douillet. Eh ben décidément, on va écouter dans quelques instants Emmanuel Macron. Je ne sais pas l'imiter. Dommage, c'était pas Jacques Chirac, sinon je vous l'aurais fait. Ça aurait été génial.
Oui, vas-y. Mais quand Emmanuel même. Vas-y, Macron, je sens envie de le faire. Fais-nous Jacques Chirac. Oui.
Mangez des pommes.
Écoutez,
t'es nul en plus. Oh là là.
J'ai mal le faire. Bon, bref, Emmanuel Macron a rappelé l'objectif. C'est donc le top 5 et il dit qu'il y aura plus de 50 médailles de notre équipe de
France. Parce que David lui a dit on va faire encore mieux et il a dit oui, je suis d'accord avec vous, David. Nous allons faire mieux.
Mais oui, exactement. Il est d'accord avec David Douillet et c'était un petit peu la vente aux enchères. Voilà. qui veut ça? Oui, moi, je prends plus, prends plus, prends plus. Allez, 80 médailles. Il y en a un petit peu plus. Je vous le mets quand même, bien sûr.
Bien sûr.
Voilà, en gros, résumé le son que je voulais vous faire écouter. Alors, le succès sportif de l'équipe de France est-il garanti? Renaud Longuèvre, tu es tout seul dans ton coin et pour l'instant, vous êtes 33%, seulement 33% à dire oui, il est garanti. Tu es derrière. Tu as beaucoup de boulot. À toi de convaincre les autres. Pourquoi il est garanti?
Oh, parce que tout simplement, je ne fais pas partie des défaitistes comme mes collègues des grandes gueules de ce matin.
Défaitistes, réalistes.
Et voilà. Non, mais moi, je m'appuie sur les statistiques, sur la data. Tu vois, je vais les faire bondir les anciens. Là, je vois la tête de Marc.
Oh là 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 là.
La data, les gars, la data, vous savez, il y a.
C'est comme les politiques, toi, tu vis qu'avec les sondages.
Pas du tout, Marc, pas du tout.
Vas-y, Renaud.
Mais si tu veux, il y a une mécanique mathématique qui est celle de prendre les podiums des championnats du monde de tous les sports qui sont représentés aux Jeux Olympiques, oui. De regarder combien ça fait de podiums fictifs. On est à plus de 110, Non, mais ça c'est factuel. Il y a pas de c'est factuel les gars. On n'est jamais arrivé aux Jeux Olympiques avec un nombre de podiums fictifs. Alors après on applique un coefficient de conversion puisque évidemment tout le monde ne fera pas de médaille, mais attention, il y en a.
J'ai peur de m'endormir.
Non, mais termine. Marc, il y en a qui vont se révéler et qui ne sont pas sur ces podiums fictifs. Mais si on applique un taux de conversion qui est celui des pays qui matchent à la maison, on obtient au bas mot entre 60 et 70 médailles. Donc ça, je vois pas les gars à part catastrophe naturelle. Je vois pas comment tu vas pouvoir.
Le problème dans un autre sens.
Bah vas-y.
Alors vas-y Marc.
Vas-y, prends le différemment.
Dans plusieurs directions. Ce que tu dis est sûrement vrai, mais il n'empêche. Pourquoi j'ai des doutes? Tout simplement parce que on n'a pas forcément pris le bon chemin il y a déjà quelques années passées par rapport à l'organisation de ces JO en France. Pour obtenir des résultats, je parle.
C'est un autre débat.
On aurait dû s'inspirer de ce qu'avaient fait les Anglais pour Londres. Pour Londres, en Angleterre, ils ont dit voilà, on fait un état des lieux, ils se sont servis des stats. Ils ont dit, il y a tant de médailles dans tel sport, il y a tant de médailles dans tel sport, il y en a un peu moins dans d'autres. On va mettre le paquet sur les sports qui peuvent rapporter beaucoup de médailles. On met des gros moyens sur ces sports-là, quitte à délaisser quelque peu les autres activités sportives.
Pour le coup, Marc, c'était un peu le discours de l'ANS,
exactement.
La prise de fonction de Nesta, et c'est ce qu'on a essayé de vendre.
Mais est-ce qu'on a vu la suite? Moi, j'ai pas vu de vrai plan offensif. Rapport à la réussite des JO au niveau sportif.
C'est un autre débat. Moi, je te dis pas qu'on n'aurait pas pu faire mieux.
Vas-y, Marc.
Je vais te faire sourire. Mais il n'y a pas eu de vraie réforme du sport depuis.
Le général de Gaulle,
voilà. Et c'est quand même, alors je le ressors souvent, mais c'est quand même une réalité. Il n'y a pas eu de révolution de l'organisation du sport en France par rapport aux JO de Paris. C'est ça qui me fait douter de la réussite finale en termes de résultats. Moi, je suis dubitatif.
Ok, dubitatif. Tu veux lui répondre déjà avant d'écouter Pascal ?
Non, mais quelque part, moi, j'ai pas dit qu'on n'aurait pas pu faire mieux. Je dis simplement qu'on va faire le record de médailles que la France a jamais fait. Par contre, j'ai pas dit qu'on avait été bon et qu'on avait été parfait dans ce qu'on aurait pu ou dû mettre en place.
Tu penses qu'on va battre le record de médailles? C'est ça la question, la problématique.
Oui, monsieur Duprat.
Ne vous inquiétez pas,
un double appel.
Pascal.
En fait, vous êtes sur l'intelligence artificielle, autant l'un que l'autre. Marc, ça me surprend. Et Renault, mais moi je suis sur le côté plutôt factuel. Alors peut-être qu'il y a des objectifs de médailles, peut-être qu'il y a des médaillables potentiels, mais il y a la réalité du sport. Heureusement que les Jeux Olympiques, c'est la réalité du sport. Donc il y a une concurrence avérée. Et je vais prendre un exemple qui a pas dû être pris en compte par ces data. C'est un des nos sportifs qui représente un potentiel médaillable presque quasi certain, c'est Kevin Mayer. Est-ce que Kevin Mayer, il est sorti des stats?
Bah, bien sûr.
Que vous nous proposez.
Bien sûr. Il a abandonné. Moi, je pense pas. Il a abandonné. Moi, je pense au championnat pas qu'il du soit monde sorti. À Budapest.
Et Kevin Mayer, on sait pas, à l'heure où on parle, on l'espère tous, je l'espère, comme vous tous, qu'il va se qualifier, qu'il va faire les minima. Parfait. Et qu'il va être champion olympique. Mais c'est pas fait, tout ça. Donc, moi, je veux bien que monsieur Macron, depuis quelques années, il nous raconte sa science. Il veut 80 médailles. Je veux bien que Claude Onesta, il soit un tout petit peu plus, réaliste. Il est, je crois, entre 60 et 70 médailles pour la délégation française. Je l'espère, bien entendu, mais ça serait, presque, pour les sportifs, bien sûr, extrêmement mérités. Il serait extrêmement méritant, tant le sport français est à la traîne, en termes d'infrastructures, en termes de moyens pour certaines fédérations. Donc, j'ai l'impression que l'équipe de France va pas battre les Anglais, par exemple, si on veut faire la comparaison, parce que c'est comparable. On peut pas se challenger avec les USA. Le pays est tellement important, voilà, ouais. Le sport est tellement représentatif. Mais faisons, si vous voulez, bataille avec nos amis anglais. Les Anglais font plus de médailles que nous. Alors qu'ils sont en France, alors que nous sommes à domicile. Voilà, je pense que de le dire, c'est situer le retard en termes d'infrastructure et de mentalité sportive de notre pays.
Moi, j'en ai marre de ce discours-là, Pascal, avec tout le respect l'affection profonde que j'ai pour toi.
Tu peux me virer des GG si tu...
Non, j'ai pas ce pouvoir et je me permettrai jamais, mais j'en peux plus de ce discours qui consiste à s'auto-flageller en permanence qu'en France... On n'a pas d'infrastructure.
On n'a rien, on est
nul, on est les derniers de la classe. Arrêtez ça, allez voir ce qui se passe dans le monde. On n'est pas les USA, on sera jamais les USA avec les universités américaines, mais on n'est pas non plus le Burkina Faso. On n'est pas la Bulgarie qui est en chute libre depuis la chute.
Non, mais t'es en train de comparer des pays.
Regarde,
on va dire
Pascal. Arrête, écoute,
je vais te tordre le cou, tu vois, j'habite à côté de la Suisse, c'est 5
mais
millions
viens,
et demi
viens.
Ou 6 millions d'habitants.
Attends,
viens en Suisse et regarde les infrastructures. OK? Les infrastructures, tous les stades de foot, c'est les billards. Tous les petits clubs disposent de vestiaires incroyables. OK? En France, tu vas dans certains vestiaires, c'est insalubre. Alors tu es en train de me parler de la Bulgarie, c'est pas le même niveau. On compare la France avec des pays qui sont éminemment développés parce qu'on en fait partie quand même.
Mais on regarde toujours au-dessus, on regarde jamais en dessous.
Parce que toi, pour progresser, tu regardes en dessous, toi. Pour progresser, tu regardes en dessous. Mais putain, ce matin, tu me tues, Renaud, là. Oh, ce matin, t'as mangé quoi? Oh, Renaud, reviens à la raison.
Pour progresser,
on regarde au-dessus, quand même, non? Regarde ce que font les Anglais en termes de politique sportive. Voilà, ça, c'est important. Regardons ce que font les États-Unis, où le sport, c'est ancré. Le sport, c'est national. Faire du sport, ça te permet à accéder au meilleur niveau d'études. Nous, en France, si tu fais du sport, tu vas en PPN. Tu m'entends ?
Pascal, tu sais...
Je reprends la main, vous pourrez vous répondre dans quelques instants, juste vous préciser notre débat.
C'est une honte.
Si vous venez d'arriver dans les grandes gueules du sport...
Il y a du racisme anti-breton et il y en a que pour les Savoyards.
Le succès sportif de l'équipe de France est-il garanti ? C'est notre bras de fer. Je rappelle, vous parliez de record de médailles. C'est 102 médailles, je ne parle pas que des médailles d'or, 102 médailles, c'était aux Jeux Olympiques de 1924 à Paris. C'est 40 médailles, mais voilà, on ne va peut-être pas forcément se comparer à des Jeux Olympiques de 1900, mais c'était pour vous donner cette statistique. Est-il garanti? Pour toi, c'est non, Simon Dutin, et ensuite Renaud Longueuve, tu auras encore ton mot à dire.
Tout repose dans la définition du succès. On se souvient, Emmanuel Macron, il nous avait...
Là, tu pourrais faire de la politique, toi. La définition du succès.
La définition du succès,
c'est le nombre de médailles. Hein, c'est pas autre chose.
Tu me connais, Marc. Moi, c'est la mesure.
Oui,
toujours la
conversion, oui, bien sûr.
Bien évidemment. La nuance, voilà. Ouais. Je me rappelle que le chef...
En fait, tu gagnes à tous les coups.
C'est ça. Walid, la chercheur, dit que c'est comme le casino d'Anguien. Effectivement. Emmanuel Macron, il nous avait vendu 80 médailles, hein, tout de même, dans l'euphorie. Ouh, c'est parti pour les Jeux. Il a vite trouvé le frein à main quand certains conseillers bien avisés lui ont dit bon, peut-être qu'on s'est un peu emballé, monsieur Macron. Donc du coup, il est revenu à 40, 50 médailles. Il le rappelait chez Apolline l'autre jour, le top 5. Je suis désolé, on se heurte à un principe de réalité. Le plafond, tu vas vite te cogner dessus. Les États-Unis intouchables, la Chine intouchable, le Royaume-Uni, là on pourrait en parler. Eux, ils ont effectué des réformes structurelles qu'on n'a pas, je pense, été capable de faire, même à l'approche de ces Jeux Olympiques. On est dans le
problème, d'ailleurs.
On n'a pas osé aller jusqu'au bout justement de ces coupes budgétaires et de choix parce que dans l'universalisme qui caractérise
notre... On a fait du saupoudrage.
Voilà, on n'a pas voulu se fâcher quand même avec certaines fédérations. Bon, les Anglais, c'est pas à Londres en 2012 qu'ils ont fait leur record, c'est 4 ans plus tard à Rio, donc il n'y a pas d'effet forcément obligatoire, c'est pas... forcément à Paris, peut-être que c'est dans 4 ans qu'on battra notre record. On plafonne depuis 4 ou 5 éditions entre la 10e et la 8e place. Je pense que notre place, elle est là. Qu'il y a un petit effet à domicile, qu'on batte le... C'est quoi? C'est 43 dans l'ère moderne. Notre record, c'était à Pékin, non, je crois, en 2008.
Non, il y a eu 51, je crois. Faut vérifier.
Bon, vérifions, mais je veux dire, on fera 50 médailles, ce serait déjà formidable.
C'est à Pékin, en 2008.
Qu'est-ce qu'on attend de nos athlètes? Objectif top 5, ce serait déjà, mais absolument fantastique.
Et je rappelle que pour le classement des médailles et le top 5, ce sont les médailles d'or qui comptent. Ouais. Et si on s'appuie sur les derniers Jeux Olympiques, donc ceux de 2020 à Tokyo, qui ont eu lieu en 2021, c'était le Comité Olympique de Russie, sous bannière neutre, qui avait fait cette cinquième place avec 20 médailles d'or. Voilà, 20 médailles d'or. Pour vous situer, 20 médailles d'or, l'équipe de France n'a jamais réussi à faire 20 médailles d'or, sauf en 1900, avec 27 médailles d'or.
La perspective, d'après l'intelligence artificielle, c'est 27, c'est ça? D'après les sondages, on fait de la data, c'est 27 médailles d'or pour la France,
ouais,
c'est ça?
Ouais, potentiel, 25 d'accord. Et 30, ouais.
Et toi, t'es d'accord avec ça, Renaud? On va faire 27 médailles d'or, donc tu dis?
Entre 25 et 30.
Justement, je vous tiens, Marc Madiot, Renaud Longuerre, vous faites partie de deux sports olympiques, l'athlétisme évidemment pour toi, Renaud, le vélo pour toi, Marc. Il faut dire les choses, c'est-à-dire que dans vos deux sports, on n'est pas censé ramener beaucoup de médailles avec notre équipe de France.
Sans vouloir être offensant, plus en vélo qu'en athlétisme.
Ça tu as raison. C'est moins prestigieux en vélo qu'en athlétisme au niveau des médailles. Comment là ça, aussi, mais Thomas Vauclair, si je l'ai bien lu dans l'équipe cette semaine...
Oui, il parlait de la route. Là. La route, c'est plus aléatoire. Tu peux aussi bien être médaille d'or comme faire 5e ou 6e.
Au niveau de l'athlétisme, est-ce que pour avoir des JO avec un certain poids au sein de notre équipe de France, est-ce qu'il faut aussi performer dans cette discipline qui est la discipline reine? Et on sait que c'est obligé. Pas notre fort.
Oui.
Renaud.
Oui, mais très clairement, l'athlétisme au JO, c'est le premier sport olympique et c'est le fil rouge. C'est-à-dire que en termes d'exposition télé, ça va pendant 10 jours, ça va être les grands médias seront dans le stade olympique d'athlètes. Et puis on décroche, on va aller voir le tir à l'arc parce qu'il y a une potentielle médaille et tout. Donc et de surcroît, les relais le dernier jour laissent aussi, si tu veux, les relais, c'est l'image de la densité d'un pays. D'accord. C'est la profondeur de banc, c'est tout ça. Et ça, c'est le dernier jour des JO. Donc
c'est un marqueur.
Je suis d'accord. Ouais.
C'est un marqueur. Est-ce qu'on peut avoir peur du zéro pointé? Est-ce que ça ferait tâche là, en athlée?
On peut pas l'exclure.
Ça fera tâche, je suis obligé.
Comment tu l'expliques, Renaud, ce décalage par rapport à nos amis anglais? En athlétisme, les Anglais, ils performent. Pourquoi nous ne performons pas, nous, Français? Quelle est la différence? C'est ça, le fond du problème. Quand tu dis oui, on va faire le record de médailles, oui. Mais en athlétisme, par exemple, le sport par excellence olympique.
Je crois qu'on est en deçà.
Tu as fait partie de la délégation française.
Je suis quelqu'un qui, je mets en cause, moi, le président de la Fédé actuel, qui, après la réussite des Jeux Olympiques de Rio, en 2016 avec les 6 médailles,
n'a pas suggéré
l'après Gany Yalouze, s'est fourvoyé dans le casting, dans les choix sur le directeur technique national qui est arrivé, qui a été catastrophique, qui a détruit complètement la haute performance. Aujourd'hui, les meilleurs sprinteurs s'entraînent aux États-Unis et ça s'est délité à ce moment-là. Et le président de la fédération, c'est quelqu'un de très gentil, très sympathique, mais il n'a pas du tout les compétences pour les responsabilités qui étaient sur ses épaules en 2016. Point final, je l'ai déjà dit, je leur dirai à toute personne qui me reposera la question tout le temps.
Okay, donc c'est le seul responsable.
Ok, je te reposerai la question dans 5 minutes. Juste, il y a Victor qui nous appelle au 32-16 qui veut réagir à notre débat. Bonjour Victor.
Bonjour à tous. Merci de m'offrir un petit temps de parole.
Oh, il n'y a pas de souci, ce sera 15 secondes. Non, vas-y.
Non, moi, je voulais simplement dire aussi qu'il faut qu'on arrête de s'auto-flageller parce que, en fait, on est en train de vivre une saison sportive, un début de saison qui est assez historique dans la plupart des sports. Alors, moi, je laisse le côté investissement de l'État, tout ça de côté. Je parle vraiment sportif. Je vais vous donner quelques faits qui sont quand même assez remarquables. L'équipe de France de waterpolo, elle est en demi-finale des mondiaux, début d'année. C'est une première dans l'histoire. Pour Renault, en athlétisme, alors, c'est peut-être pas le sport qui ramènera le plus de médailles, mais à ce stade de l'année, on a 35 minima qui ont été réalisés. L'année dernière, à Budapest, il n'y en avait que 42, alors que là, la saison estivale, elle débute seulement. Et on a 24 records de France qui ont été battus depuis le début de l'année, en 2024, dans toutes les catégories en athlétisme. Donc, je prends aussi en compte les jeunes.
On va peut-être battre notre record de finaliste, Victor, du coup.
Peut-être, mais alors là, plus concrètement, on a plusieurs Français qui sont en tête du classement mondial ou olympique dans leur discipline. Je peux citer Althea Lorrain au taekwondo, Romain Maillot au BMX ou Jean-Baptiste Mourcet au pentathlon. Si je prends le BMX, les Français, au classement mondial, ils sont 1er, 2e, 4e, 9e, 11e et 12e. Ils ont fait le triplé au championnat du monde. Au tennis, l'année dernière, au 17 avril, on avait 0 Français dans le top 40. Là, on en a 4 la semaine dernière. Mathieu Pavon au golf, c'est devenu le premier Français victorieux sur le PGA Tour il y a quelques mois. Quelques mois avant, c'était Céline Gauthier qui remportait un majeur pour la première fois depuis 20 ans. Au tennis de table, on est vice-champion du monde par équipe.
Tu peux pas faire tous les sports, Victor, ouais, même si tu veux.
Tout ça pour vous dire, en fait, des exemples, il y en a plein. Le badminton, c'était historique il y a 2 semaines. Tout ça pour vous dire que, en fait, c'est bien beau de dire, de toute façon, la France, on est nul. De toute façon, on n'aura jamais 50 médailles, 80 médailles, j'en sais rien.
Bravo.
Mais finalement, quand on regarde dans le détail des sports, les Français, mais ils sont en train de nous sortir quelque chose de fou.
Bravo.
Oui, mais d'accord, moi j'entends l'optimisme, l'angélisme, et on a tous envie de voir des Français sur les podiums. Mais il y a des époques où on était les meilleurs en cyclisme sur piste, ce n'est plus le cas. On a des époques où on était les meilleurs en escrime, ce n'est plus tout à fait le cas. On était incontestablement les meilleurs en judo, c'est plus tout à fait le cas. C'est plus tout à fait le cas. Moi, je veux bien qu'il y ait un réservoir, mais il va falloir aller les piquer à ceux qui les remportent depuis qu'on les gagne.
Mais il y a des nouvelles disciplines.
Moi, je veux bien. Victor, il nous a cité quoi ? 3-4 disciplines, ça fait 3-4 médailles en plus éventuellement.
Tu vas être pas mal sur le breakdance, toi, Marc.
Je pense que je vais être au point.
Ouais. Tu viendras commenter le breakdance sur
avec
RMC.
Grand plaisir.
Ouais. Tu sais que c'est catastrophique, ils en font faire en EPS à l'école primaire.
Pourquoi
hein.
C'est catastrophique, les copains
Ah ben, ça traumatise des gamins pour les 30 prochaines années. Tu fais un battle, tu fais un battle devant toute la classe de breakdance face à son copain.
Ok, bon, voilà. On va passer à autre chose. Merci Victor d'avoir composé le 32-16. Et évidemment, on reparlera des Jeux Olympiques.
Forcément.
Bravo Victor. Dans cette émission, dans les grandes gueules du sport.
Il a potassé. Bon,
documenté, il a bossé Victor, bravo.
Ouais, alors lui, tu l'écoutes. Allez. Et moi, tu me fais le clapet.
Allez, la punchline des GG dans quelques instants. S'il vous plaît, les copains, je reprends la main. On va parler des arbitres. La crise de l'arbitrage français. Les arbitres sont-ils victimes ou coupables? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h33, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission le samedi et le dimanche de 9h30 à midi. Sachez que la flamme olympique est partie il y a quelques minutes. Vous l'avez vécu en direct dans les grandes gueules du sport. Est partie d'Athènes, du port du Pirée, direction la France-Marseille. Arrivée le 8 mai prochain, émission journée spéciale sur RMC. Nous serons tous en direct de Marseille pour vous faire vivre au plus près cet événement. Les grandes gueules du sport, toujours avec Simon Dutin, Pascal Duprat, Marc Madiot, Renaud Longuèvre. Dans 10 minutes, le zapping des GG avec pas mal d'informations à vous donner. Je pense que ça va vous régaler, notamment les chiffres du contrat de Mbappé avec le Real Madrid dévoilé par la presse espagnole. Voilà, vous me direz si ça vous intéresse ou non, si vous êtes des hommes d'argent. Et je pense que oui. L'arbitrage français est en crise. Cette semaine a encore été marquée par de grosses erreurs de nos hommes en noir, notamment lors des rencontres Marseille-Nice et Monaco-Lille. Les acteurs de la Ligue 1 n'en peuvent plus. Trop c'est trop, surtout à quelques journées de la fin, là où tout se joue. Jeudi, dans Rotten sans flamme, Eric Borghini, le président de la Commission fédérale de l'arbitrage, est venu défendre les arbitres. La pression des acteurs est devenue trop forte. C'est la punchline des GG.
RMC. La punchline GG.
Je ne nie pas l'évidence. Il y a un certain nombre de matchs que nous avons vécu, que nous avons vu, où les arbitres ont pris des décisions qui clairement n'étaient pas attendues. Le dernier match, le Marseille-Nice, dans l'actualité, un accident industriel comme nous avions vu Lyon-Brest où il y avait eu là encore un accident industriel. Bon, il n'y a pas plus d'erreurs d'arbitrage aujourd'hui qu'il y a 3 mois, qu'il y a 3 ans. Simplement, aujourd'hui, il y a un contexte, une ambiance d'hostilité envers l'arbitrage.
La faute à cette hostilité, donc, pour Eric Borghini. Les arbitres sont-ils victimes ou coupables ? Simon Dutin.
Coupable.
Marc Madiot.
Coupable.
Pascal Duprat.
Coupable.
Renaud Longuèvre.
Victime des instances qui les forment et qui les préparent et qui les mettent en place.
Ok, j'ai du victime, j'ai du coupable. On va débattre dans quelques instants, juste auparavant. Notre journaliste Loïc Braillet a joué en fin de semaine des présidents de Ligue 1 et en off, ils ont exprimé leur colère.
Ce président de club que l'on a joint n'y va pas par quatre chemins. Pour lui, le championnat est déjà faussé. Colère, incompréhension, injustice, impuissance. Voilà ce qui ressort du sentiment des présidents de club au sujet de l'arbitrage. Plusieurs d'entre eux craignent les futurs coups de sifflet qui pourraient avoir de grandes conséquences. Là, on parle de décisions à 30 millions d'euros, explique un président qui joue une qualification en Coupe d'Europe. D'autres ont peur de voir leur club rétrograder sur une erreur d'arbitrage. À la fédération qui est responsable des arbitres, on reconnaît des prestations récentes catastrophiques, que la pression est énorme et difficile à gérer. On va finir la saison comme on peut, en espérant que l'équité soit respectée, confie un autre dirigeant qui conclut. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'on ne peut pas continuer comme ça. Il faudra du changement.
Et très bon papier en coulisses à découvrir sur rmcsport.fr, signé donc Loïc Braillet. Les arbitres sont-ils victimes ou coupables ? J'ai plus de coupables. On va commencer justement avec toi. Simon Dutin, pourquoi coupable ?
Coupable parce que déjà il y a beaucoup d'orgueil, beaucoup de fierté chez les arbitres français. C'est très rare de les voir venir expliquer une décision, même si c'est pas ça qu'on leur demande. Je pense qu'on est nostalgique de l'époque Michel Vautreau, Joël Quignou. À une époque, c'était les meilleurs arbitres du monde. Ça arbitrait des finales de Coupe du Monde et on vit encore dans cette illusion que nous en France, on sait bien faire les choses. Je pense qu'il y a,
il y a deux arbitres qui vont arbitrer en demi-finale de Coupe d'Europe tout de même. Deux arbitres français.
Oui, ça fait combien d'années que pendant combien d'années ce n'est pas arrivé. C'est vrai que le Texier c'est pas mal, il a été pas mal entre City et le Real. Oui, ouais, ça ressemblait vraiment à un arbitrage de haut niveau. Turpin, il y a les pour, il y a les contre, au moins il a pour lui le mérite d'avoir son gros caractère. Mais ça a été rappelé dans le papier de Loïc, il y a quand même au sommet de l'arbitrage français des problèmes. Alors il y a eu le Lannoy Gate, tu sais,
c'est là où le bas blesse.
Oui, et on peut reprocher, mais de tout temps, ça fait 20 ans que le responsable de l'arbitrage, lorsque les médias veulent lui tendre le micro, et encore c'est une expression imagée, parce que pour lui tendre le micro, il faut y avoir accès, il faut avoir des rendez-vous. Bon, c'est plus dur à caler qu'un entretien avec le président de la République. L'arbitrage français refuse de s'exprimer, et puis il y a ce micmac en coulisses, c'est guéguerre politique entre ces mecs-là qui ont tous arbitré à la même époque. Je trouve ça grotesque et au-delà de ça, dès qu'il y a une annonce qui est faite, t'as pas l'impression que ça satisfait le camp d'en face. Il y a une guéguerre entre la Ligue et la fédération qui gère, va savoir pourquoi, la majeure partie de... Alors certes, il y a tous les arbitres du dimanche, et on pourrait parler de la crise des vocations, du manque de sportivité autour des terrains, mais ça c'est encore un autre débat. La crise, l'effet de loupe, il est sur le sport professionnel. Bon, Anthony Gauthier, qui a réussi à faire virer Lannoy et à reprendre la main, à reprendre son poste, il fait quand même des propositions un petit peu, moi, que je trouve soit inefficientes, soit inintéressantes, soit catastrophiques. Qu'est-ce qu'il vient de nous proposer ? Il y a un mois, il a dit... pour la VAR, il faudrait qu'on ait recours à la VAR, même lorsqu'en gros il n'y a pas litige, quoi. Sous-entendu, si tu mets un carton à la deuxième minute, bon, tu fais semblant de ne pas être sûr de toi, tu vas aller voir la vidéo pour pouvoir expliquer aux acteurs que ta décision est la bonne. La VAR devait être une assistance, c'est devenu une concurrence. Les mecs se font concurrence, c'est-à-dire que tu ne sais plus parfois si on n'appuie pas sur le bouton pour ne pas déjuger le copain qui arbitre sur le terrain, ou alors si on n'est pas sûr et du coup on lui dit attends, on est trois, on n'arrive pas à se décider. Vas-y, viens voir. Donc, il y a une utilisation grotesque de la VAR qui n'est pas symptomatique juste de la France. Mais bon, c'est quand même... Philippe Diallo essaye de mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Il y a 17 clubs de Ligue 1 qui souhaitaient le départ d'Anthony Gauthier. C'est quand même... C'est du grand guignol pour l'instant.
Sont-ils victimes, sont-ils coupables ? Pascal Duprat, tu voulais prendre la main.
Alors, ouais, mais en fait, j'aurais voulu entendre Renaud avant, mais je vais prendre la parole parce que Renaud, ce qu'il a dit en aparté, c'est très important. C'est pas les arbitres qui sont coupables, c'est ceux qui les dirigent.
les instances.
Bien sûr.
Voilà. Parce que les arbitres en France, croyez-moi, ils ont beaucoup progressé. Ils sont très bons. Les arbitres assistants, ils ont fait des efforts incroyables. Ce qui est pas bon, c'est cette guéguerre, c'est cet entre-soi, c'est le fait qu'on a l'impression que messieurs les arbitres, en fait, ils sont éduqués à être au-dessus de tout, condescendants et que sais-je encore. On peut pas leur parler. Ah, tu te rends compte, dit Stéphane Lannoy, il a envoyé un texto au président de Lille et voilà pas qu'il s'est fait virer par Gauthier qui pouvait pas le saquer. Voilà, c'est tout le temps la même chose avec les arbitres. Ils veulent pas se mélanger. Moi, je pense que, je sais pas, par exemple, je vais pas faire de corporatisme, mais un entraîneur de football qui est pas en exercice, il est peut-être capable de lire les images ou de les interpréter aussi bien qu'un arbitre. On pourrait peut-être faire en sorte que l'entre-soi, il cesse. Et puis, il y a une chose qui est incontestable, c'est que la Ligue professionnelle de football, il faut la distinguer de la Fédé. Donc, quand vous avez les meilleurs arbitres français qui sont payés, qui gagnent aujourd'hui très bien leur vie, et tant mieux, ok, eh bien, ces arbitres-là, ils sont payés, en quelque sorte, par les clubs. Donc, je vois pas pourquoi les clubs pourraient pas, de temps à autre, avoir un accès direct à ces arbitres-là. Voilà, moi, pour moi, les raisons. Pascal. Arbitrage en France, très bon. Ok, très bon. Mais en fait, l'entre-soi fait que ben il stigmatise en fait toutes les critiques.
Très bien, Pascal. Juste autre moins d'un doute. Tu es en train de postuler pour être dans le camion, c'est ça?
Non, mais la dernière fois, vous m'avez fait postuler chez les féminines. Maintenant, vous voulez me faire postuler chez les arbitres. Je dis simplement qu'il y a d'autres acteurs du foot qui pourraient, avec l'aide des arbitres ou accompagnant les arbitres, peut-être juger quelquefois en une fraction de seconde, grâce aux images, s'il y a pénalty ou pas. À condition que ça soit uniformisé. Ils ont aussi une dialectique, un langage, une sémantique qu'on comprend plus.
Alors, Pascal, je bois du petit lait. Saint-Pascal.
Saint-Pascal. Pour la première fois de la journée, vous êtes d'accord.
Merci.
Tout arrive.
Voilà, merci, enfin, Renaud.
Enfin. Ce que dit Pascal est déterminant. Pour moi, l'arbitre de très haut niveau est un athlète de haut niveau. L'arbitre du futur est un sportif de haut niveau, dans sa tête, avec une préparation physique de professionnel. Et je vais aller plus loin. Je crois que je rejoins Pascal à 200%. C'est que c'est la guerre froide. C'est deux mondes qui ne se parlent pas. Quand tu vois au rugby, le rugby, à mon avis, a un meilleur arbitrage, même s'il y a des polémiques au kiff et compagnie.
C'est plus facile, malgré tout.
Dans la préparation du 15 de France, il y a des arbitres qui viennent faire des modules de formation aux joueurs pour leur expliquer comment pas se faire prendre par la patrouille pour faire donner moins de pénalités ou autre. Il faut qu'à l'avenir, dans le foot, il y ait des coachs de foot, des joueurs pros qui interviennent dans la formation des arbitres pour leur faire piger le contexte psychologique et qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un joueur quand il ressent une injustice, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un entraîneur quand il est confronté à du stress, à de la pression et qui constate qu'il se fait voler. Et ça, c'est ça qui manque, c'est qu'il n'y a pas assez d'échanges. Pascal le dit très bien et je le rejoins à 200%. Deux mondes ne se parlent pas, les acteurs du jeu, les joueurs et les entraîneurs d'un côté, les arbitres dans leur tour d'ivoire. Il faut casser tout ça, il faut que la formation des arbitres soit reprise en profondeur avec si tu veux des échanges et que les arbitres viennent aussi dans les clubs faire de la pédagogie et interviennent dans la préparation des matchs pour les joueurs.
Enfin, très bien, en rugby, l'application de la règle est quand même beaucoup plus sujette à l'interprétation de l'arbitre, okay, qu'en football.
Mais vous êtes en train de me présenter un grand plan pour l'arbitrage. Moi, je vous demande en ce moment, avec toutes les polémiques, est-ce qu'ils sont victimes ou coupables? Victimes de toute la pression qu'il y a en cette fin de saison ou coupables parce qu'ils ne sont pas très bons? Marc Madiot.
Ben, moi, je vais te faire ça très simplement, en 3 secondes. Il y a le sifflet.
L'arbitre?
Bon, ben, il est responsable. Il est donc coupable. Si ça se passe mal, s'il y a des erreurs, c'est de sa faute. Point barre.
Ok, mais peut-être qu'on lui a mis
technologie. Non, mais attends, alors on est en train de déplacer le sujet, on va encore reporter ça sur les autres. L'arbitre sur le terrain, il est responsable.
Mais il n'est pas de mauvaise
foi. Sinon,
il
n'est pas arbitre.
Mais il est
non, je ne te dis pas qu'il est de mauvaise foi. Mais il assume. C'est lui qui a le sifflet, c'est lui qui...
Et puis on a le droit de mettre dans le même panier les arbitres de terrain.
C'est pas tellement
responsable. Même dans ceux qui sont dans les bureaux, ils sont responsables. Lorsque t'entends les arbitres, ils témoignent de façon anonyme, les mecs. Ah bah hein, attention. C'est-à-dire ils osent même pas dire oui, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ma direction, parce qu'encore une fois la structure.
Bah autrement
elle
ils sont défoncés.
Ils sont notés exactement. Ils sont débriefés. Leurs matchs sont scrutés à la loupe. On regarde plus précisément le match de l'arbitre.
Ça s'appelle de l'entre-soi.
Exactement. Et les mecs, ils ont peur de perdre leur bistec, c'est tout.
Ils sont en compète permanente. On se croirait l'éducation nationale en France.
La commission fédérale de l'arbitrage, c'est pareil. On donne des bons points aux copains et on note moins bien les.
Il y a des arbitres privilégiés. Si vous voulez tout savoir justement sur ces coulisses au sein de l'arbitrage, n'hésitez pas à aller sur rmcsport.fr. Il y a un papier passionnant avec, comme je le disais, des off, c'est-à-dire des présidents de Ligue 1 qui nous ont parlé sous couvert d'anonymat. C'est le principe du off. 10h45. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. On verra comment se comporte ce week-end nos arbitres de Ligue 1, s'il y aura d'autres polémiques. Mais tout de suite, on s'en fout pas. Des informations, notamment en athlé, notamment en vélo, mais aussi un petit peu de Mbappé. Le contrat au Real Madrid. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h48, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission jusqu'à midi. Merci infiniment de votre fidélité. Vous êtes très nombreux à nous écouter en direct, mais également en podcast. N'hésitez pas à aller nous réécouter si vous voulez revivre ce moment. Le Belém qui quitte le port du Pirée à Athènes pour rejoindre la France avec la flamme olympique à son bord. N'hésitez pas à nous réécouter. C'était aux alentours de 10h. Et puis à 9h30, nous avons évoqué le Paris Saint-Germain. Peut-être champion ce soir. Est-ce toujours un événement? Mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC. Le zapping des grandes gueules du sport.
Plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première information à vous donner, c'est les chiffres du contrat de Mbappé au Real Madrid dévoilé par la presse. On s'en fout, on s'en fout pas. Marc Madio.
Surtout pas, on s'en fout pas.
Homme d'argent, je te connaissais. Pascal Duprat.
On s'en fout pas.
Ah, Simon Dutin.
On s'en fout.
Ok. Renaud Longuèvre.
Bon, je suis curieux, on s'en fout pas.
Le journal madrilène AS a donc dévoilé ce vendredi les chiffres du futur contrat de Kylian Mbappé au Real Madrid avec un salaire bien moindre, c'est ce qui vous intéresse, à celui qu'il perçoit actuellement au PSG, une rémunération annuelle autour de 15 millions d'euros dans les standards des grosses stars du Real, mais trois fois moins importante qu'à Paris. En revanche, AS explique qu'il touchera 80% de ses droits à l'image, ce qui pourrait lui permettre de doubler sa rémunération. Et puis il reste une inconnue, si ces chiffres sont exacts, c'est le montant de la prime à la signature, car il est en fin de contrat avec le PSG. Marc Madio.
Bah, il défend ses intérêts. Hein. Après, je suis un peu surpris quand même de l'écart qu'il puisse y avoir entre l'offre du Real et ce que proposait éventuellement le PSG.
Bah, en tout cas, sur son dernier contrat, c'est autour de 60 millions d'euros par an quand même au PSG. Et là, ce serait autour de 15 millions. Ce qui est un écart considérable quand même.
C'est pas simple.
Non, mais c'est unique. C'est unique, non.
Oui, mais enfin,
il n'est pas dans le besoin.
Il l'image.
Sans compter sur la prime à la signature qui va aussi compenser
hors norme.
Mais ce ne sera peut-être pas dévoilé, mais...
Non, mais le droit à l'image aussi, Pascal, c'est parce que c'est malin, parce que ça veut dire que s'il fait banquette et que ça donne pas le rendu attendu, les ventes de maillots, tout ça. Alors, par contre, si ça rigole et qu'il enchaîne à la Zidane, eh ben donc c'est une grosse carotte pour lui que les maillots se vendent où en Chine, partout dans le monde, tu vois.
Donc si c'est dans ce cas-là, il touchera plus qu'il ne touchait au PSG.
Si il fait banquette,
il a 80% des ventes de maillots.
La précaution de Renaud. Si il fait banquête.
Oui, tu n'as pas le droit à la parole. Tu t'as dit que tu t'en foutais. Pascal Duprat, rapidement sur le sujet.
Bon, c'est pas normal quand on est un entraîneur de foot lambda ou un citoyen lambda, mais c'est juste logique quand t'es le meilleur joueur du monde. Donc voilà, il va gagner beaucoup d'argent. Il en gagnera certainement moins que le meilleur basketteur ou le meilleur golfeur.
Ah bah il en gagnera de toute façon moins qu'au Paris Saint-Germain. C'est déjà ça l'info quand même. Hein, et beaucoup
moins
que
d'autres sports. Donc on stigmatise le foot en permanence parce que c'est le sport numéro un. Mais il y a beaucoup d'autres sports, et tant mieux d'ailleurs, où les stars gagnent davantage que le meilleur footballeur.
Allez, deuxième information dans le zapping des GG à vous donner. Histoire pas commune. Pierre-Ambroise Boss, retraité et suspendu un an pour des no-shows. Alors qu'il est retraité, on s'en fout, on s'en fout pas. Renaud Longuèvre.
Non, on s'en fout pas.
Simon Dutin.
On s'en fout.
Marc Madio.
On s'en fout pas.
Pascal Duprat.
Désolé, mais je m'en fous.
S'il a annoncé sa retraite en décembre dernier, Pierre-Ambroise Boss a récemment écopé d'une suspension d'un an de la part de l'Agence française de lutte contre le dopage. Et c'était une révélation du journal L'Équipe cette semaine. Le champion du monde 2017 du 800 mètres a été sanctionné pour 3 manquements à ses obligations de localisation entre septembre 2022 et juin 2023. À cette époque, le coureur tentait de redevenir un athlète de haut niveau malgré une blessure à un ischio-jambier. Voici ce qu'il disait. J'étais un pied à l'entraînement, un pied en vacances. Ça, c'est pour expliquer les raisons de son premier manquement datant du 25 septembre 2022. Le contrôleur antidopage n'avait pas réussi à joindre l'athlète le 1er mai 2023, alors que l'athlète se trouvait en famille du côté de Nantes. Et pour se défendre plus tard, il mettra en avant l'absence de sonnette à la porte. Quelques jours plus tard, Pierre-Ambroise Boss a rechuté physiquement. Voici ce qu'il déclare. À ce moment-là, j'ai lâché complètement. Derrière, ça a été le cercle vicieux. J'étais en roue libre, sans savoir que ça me pendait au nez. J'étais un peu en vadrouille par-ci par-là. Je n'étais pas trop penché sur la localisation ces derniers mois. Pierre-Ambroise Boss a loupé son troisième contrôle le 11 juin 2023, recevant ensuite un courrier lui indiquant qu'il allait probablement être suspendu 2 ans. Passé devant la commission des sanctions le 27 mars dernier, sa peine a finalement été d'une suspension d'un an.
Ouais, non, Renaud, tu suspends un mec qui a annoncé sa retraite.
Mais est-ce qu'il n'a pas annoncé sa retraite parce qu'il avait Renaud Chaud ?
Non. Honnêtement,
bah, je sais pas.
Honnêtement, moi, je défends tout le temps l'Agence française antidopage et tout, mais je trouve que sur un cas comme ça, c'est pas. Je vais peut-être me faire tomber dessus, c'est pas très grave. Je trouve que c'est pas super élégant. Je connais le Lascar. C'est un très très grand talent, ce mec qui a été champion du monde. Mais sur sa fin de carrière, quand il a tenté de revenir, truc de blessure, il a autant, tu vois, des athlètes dans leur au pic de leur carrière, moi je leur mets une pression de dingue, vous n'avez pas le droit à la moindre erreur, envoyez vos whereabouts, vos localisations, vos trucs, vos machins, si tu savais, je pourrais pas te le révéler, le nombre d'athlètes de haut niveau vraiment qui sont des gens très propres, qui étaient à deux no-show et qui étaient tout près du troisième, parce que t'as pas le droit à l'erreur, t'as pas le droit d'aller chez tonton Marcel sans le rentrer dans l'application, dans le truc, dans le machin. Là, c'est sur une fin de carrière. Il avoue.
Non, mais ce qu'il faut,
il avoue
ce que dit Marc.
Qu'il a laissé filer le truc. Le mec, c'est déjà, il est limite de la phobie administrative. Et puis, il a laissé filer. On est après l'annonce de la retraite.
Non, justement. En fait, c'est ce que veut dire Marc. Il dit pas.
La sortie dans les médias, je te parle. La sortie, la
réalisation.
Quand il prend sa retraite, il sait qu'il risque 2 ans de suspension. Quand il prend sa retraite, il sait qu'il.
Quand il annonce sa retraite, il sait déjà qu'il a 3 no-show.
Eh oui. Enfin, est-ce que ça change quelque chose?
Bien sûr. Ah oui, ça change quelque
même
chose.
Même s'il a lâché, enfin, je veux dire, ça met en péril JO 2024.
Non, mais connaissant, il avait déjà arrêté, puis il avait repris parce que Paris 2024 et que les copains lui ont dit allez, tu peux pas t'arrêter là-dessus. Mais après Tokyo, il avait. Donc, okay. Si tu veux.
Ok, troisième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Patrick Lefebvre qui répond aux rumeurs de départ de Julien Alaphilippe. Marc Madiou, on s'en fout, on s'en fout pas?
Moi, je m'en fous pas, je regarde ça avec.
J'imagine, on va t'entendre.
Intérêt.
Pascal Duprat.
Non, moi, je m'en fous pas.
Simon Dutin.
Je m'en fous pas.
Renaud Longuèvre.
Je m'en fous pas, mais je vais laisser parler Marc.
En fin de contrat avec la Soudal Quick-Step en fin de saison, Julien Alaphilippe semble bien parti pour quitter l'équipe belge. C'est vrai, la semaine dernière, d'ailleurs, on en parlait, le manager de Total Energy, Jean-René Bernodeau, a confirmé avoir entamé des discussions avec lui. Mais cette semaine, à en croire son patron, Patrick Lefebvre, qui le tacle, hein, vous le savez, régulièrement ces derniers mois, le Français serait pourtant prêt à rempiler. Voici ce qu'il dit. Les temps changent, je pense vraiment qu'il veut rester, mais je ne parlerai pas parce que c'est mal compris quand je dis quelque chose. Il fait partie de la famille et quand vous êtes marié, ce n'est pas toujours la paix. Dans une équipe où il y a 85 personnes, il est normal d'avoir des discussions et des frictions. Marc.
Moi, je pense que Patrick Lefebvre veut faire monter les enchères.
Oui, il ne va pas lui proposer un contrat quand même.
Mais pourquoi pas?
Si.
Il peut lui proposer un contrat tout en sachant que les autres vont remonter au cocotier et mettre plus cher. Mais sur les autres contrats...
C'est
et
pour
sur
les masses, appauvrir, pour appauvrir ben oui. Les autres. Ah ouais. Bon, mais il est
machiavélique,
ce mec. Putain, c'est machiavélique.
Avec l'argent, il rigole pas.
Pardon, Marc, mais j'ai entendu donc que Total Energy avait entamé les discussions avec lui.
Je comprends pas Jean-René, il aurait jamais dû dire ça.
Oui, est-ce que toi, t'aimerais entamer les discussions avec Julien Alaphilippe?
Est-ce que tu l'as fait?
Ah non.
Est-ce que t'en rêves?
Tu l'as non, pas encore fait?
Non, je reste dans ma logique. Non, je suis transparent sur la situation. Nous, on a une ligne de conduite et une politique sportive au sein de l'équipe. Et le profil de Julien Lafilippe, avec tout le talent et tout le palmarès qu'il puisse avoir, n'est pas notre...
Il n'entre pas dans la politique.
Il n'entre pas dans notre ligne sportive, c'est tout. Ah, c'est, j'ai rien contre lui, hein, mais
compris.
Quand on fait du sport de haut niveau et qu'on se fixe des lignes directrices, la première des choses, si on veut arriver à un résultat, c'est de respecter ces lignes et ne pas succomber aux tentations.
Ok, comment on lit cette information? Tu nous l'as dit, il fait monter tout simplement les enchères.
Moi, je pense, oui. Okay. Et puis, il a raison.
Et merci beaucoup.
Pogacar, tu le prends ou pas?
Marc Madiot. Pogacar, ah, il n'entre pas dans la ligne.
Ni dans la ligne. Parce qu'il est trop vieux.
C'est une question de moyens. Et pour Alaphilippe, c'est un peu la même chose. Donc,
10h57. On se retrouve dans quelques instants pour un débat passionnant. C'est le grand retour, le comeback de Marcel Hirscher, la légende autrichienne du ski alpin. Il va rempiler et il va changer de nationalité. Est-ce que c'est dérangeant? Oui ou non? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.